Vous écoutez On lit pour vous.
Faire entendre sa voix malgré son handicap lors des élections provinciales. Un texte de Pierre-Olivier Nadeau paru le 23 octobre 2024 dans Ici Saskatchewan. Alors que les Saskatchewanais sont appelés aux urnes pour élire leur prochain gouvernement, le simple geste de voter peut parfois représenter un défi pour une personne en situation de handicap. Or, Élections Saskatchewan affirme être prêt à offrir les outils nécessaires pour faciliter l'accès des électeurs qui ont besoin d'aide, et ce, dans plus de 700 bureaux de vote à travers la province. Lorsqu'on parle des personnes qui ont besoin d'une plus grande accessibilité, nous parlons des électeurs en situation de handicap, des électeurs qui votent pour la première fois et des électeurs âgés. En fait, tous les électeurs qui ont besoin de plus d'aide ou de temps, explique le porte-parole d'Élections Saskatchewan, Tim Kidd. L'organisme offre, entre autres, des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, du braille pour les personnes malvoyantes, de même que la possibilité d'avoir l'aide d'un ami ou d'un employé. Ces initiatives permettent d'éliminer les barrières et d'offrir une expérience de vote accessible, rapide et facile, indique Tim Kidd. Il affirme qu'Élections Saskatchewan consacre beaucoup d'efforts à la formation de ses employés afin de venir en aide aux électeurs. Ce travail a porté ses fruits. En 2019, Élections Saskatchewan a remporté un prix international offert par Zéro Projet. Cet organisme international mise sur la recherche pour supprimer les barrières auprès des personnes handicapées. Malgré tous les efforts faits par son équipe, Tim Kidd admet que certains bureaux de vote ne pourront pas respecter tous les critères d'admissibilité. Nous allons indiquer les informations pertinentes sur la carte d'information de l'électeur, dit-il. Tim Kidd est conscient que certaines barrières existe toujours, mais assure qu'Élections Saskatchewan s'efforce de les éliminer. Nous voulons arriver à un moment où, si un électeur ne vote pas, c'est uniquement par choix. Une citation de Tim Kidd, porte-parole d'Élections Saskatchewan. Des changements appréciés. Comme à chaque scrutin, Élections Saskatchewan reçoit l'appui d'Inclusion Saskatchewan, un organisme qui travaille à ce que tous les Saskatchewanais soient valorisés et inclus dans tous les aspects de la vie. Ensemble, ils s'affairent à rendre le vote plus accessible. Nous avons beaucoup parlé des espaces physiques où les gens votent et des besoins sensoriels. Certains bureaux de vote sont épuisants pour certaines personnes. Marquer un X peut aussi être un obstacle, indique la directrice des initiatives d'inclusion Saskatchewan, Brittany Acton. Elle salue d'ailleurs les efforts réalisés au cours des dernières années pour améliorer le passage des électeurs dans les bureaux de vote. Je vois beaucoup de travail fait par Élections Saskatchewan et de moins en moins de barrières à chaque cycle électoral, ce qui est agréable à voir. Une citation de Brittany Acton, directrice des initiatives d'inclusion Saskatchewan. Elle souligne d'ailleurs qu'il y aura au moins un employé formé dans les communautés rurales pour aider les personnes ayant un plus grand besoin d'accessibilité. Si les bureaux de vote sont de plus en plus accessibles, Brittany Acton indique qu'Élections Saskatchewan doit surtout se pencher sur la question de l'accès à l'information. Comprendre votre droit de voter. Comprendre le processus pour s'inscrire pour voter. Toutes ces choses peuvent être des barrières, surtout pour ceux qui n'ont pas Internet, explique-t-elle. Elle note toutefois des mesures déjà entreprises dans ce secteur avec des vidéos d'animation et des documents en langage clair. C'était Faire entendre sa voix malgré son handicap lors des élections provinciales, un texte de Pierre-Olivier Nadeau, paru le 23 octobre 2024 dans Ici Saskatchewan.
des soins à domicile 24 heures sur 24 pour réduire l'engorgement élevé des hôpitaux. Un texte de Daniel Boily et David Gentile paru le 19 octobre 2024 dans Radio-Canada. Le besoin d'agrandir l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l'est de Montréal, ne s'est jamais fait autant sentir qu'au cours des derniers mois. Selon les informations obtenues par Radio-Canada, la fréquentation des urgences aux hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini a augmenté de 8,5% depuis un peu plus de 6 mois par rapport à la même période en 2023. C'est 3 600 personnes de plus. C'est 20 personnes de plus par jour aux urgences, en ayant les mêmes lits, les mêmes ressources humaines, explique le PDG du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, Jean-François Fortin-Véraud. L'augmentation et le vieillissement de la population expliquent cet achalandage accru. On retrouve 100 000 personnes de plus à Montréal que l'an dernier, principalement dans l'est de l'île. Ces personnes-là ont besoin de soins et ça fait augmenter le besoin en offre de services, ajoute M. Fortin-Véraud. Des signes de débordement. Les signes de débordement se font sentir tant à l'urgence qu'aux étages de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, un des plus grands centres hospitaliers au Québec. À l'urgence, par exemple, le taux d'occupation moyen des civières a dépassé les 150 % au cours de la dernière semaine, un taux nettement au-dessus des 117 % observés dans l'ensemble de la province. Les lits d'hospitalisation aux étages débordent également. Pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on s'approche de 22-23 % des lits qui sont occupés par des personnes en attente d'hébergement. C'est très important, indique M. Fortin-Véraud. Pour Santa Cabrini, on s'approche de 30 %. Ailleurs, au Québec, le taux de patients qui n'ont plus besoin de soins atteint 15 %, un sommet en 2 ans, atteint malgré la création d'une cellule de crise pour réduire les débordements dans les urgences par le ministre de la Santé, Christian Dubé, en novembre 2022. La cible visée est de 8 %. Pour l'ensemble du Québec, on recense au total 2524 patients hospitalisés qui attendent notamment une place d'hébergement dans un CHSLD, dans une ressource intermédiaire ou dans une résidence privée pour aînés. Des spécialistes soulignent que plus les hôpitaux ont de tels patients, plus ils font patienter des usagers à l'urgence et moins ils disposent de lits pour effectuer des interventions chirurgicales qui réduiraient les listes d'attente. Une solution en attendant. Dans l'est de Montréal, on doit composer avec le fait qu'il n'y a pas, au net, de nouvelles places pour des aînés en perte d'autonomie. Pour Isabelle Portelance, directrice du soutien à domicile et de la réadaptation du CIUS de l'est de l'île de Montréal, une solution privilégiée à court terme est le maintien à domicile, notamment selon la formule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plutôt que d'attendre sa place d'hébergement à l'hôpital, on va ramener le patient à la maison, dans ses choses, avec ses proches, et on va offrir des services, décrit-elle. C'est plus de 200 personnes qu'on accompagne dans ce modèle-là de retour à domicile, d'accompagnement à domicile. Lors de notre passage, une technicienne en travail social accompagnait une patiente à son domicile en fonction de l'horaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle a un service 24 heures avec un quart de jour, de soir, de nuit, explique Laurie Kerouac. Ce service dure en moyenne 1 mois avant que le patient obtienne une place dans un lieu d'hébergement. D'autres établissements, comme le CIUS du nord de l'île de Montréal, ont recours à ces services à domicile en attendant que leurs patients obtiennent une place d'hébergement. Un dossier pour Santé Québec. Pour la direction du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, la gestion des débordements des hôpitaux du territoire est une occasion de collaborer avec Santé Québec, la société d'État qui doit chapeauter les activités du réseau dès décembre prochain. C'est sûr qu'il faut répondre ensemble et c'est l'esprit de Santé Québec de répondre à ce genre de problème, affirme Jean-François Fortin-Véraud. C'était des soins à domicile 24 heures sur 24 pour réduire l'engorgement élevé des hôpitaux. Un texte de Daniel Boily et David Gentile paru le 19 octobre 2024 dans Radio-Canada.
Steve Bégin veut sensibiliser le Québec aux troubles du langage. Un texte d'Alexis Drapeau-Bordage paru le 20 octobre 2024 dans La Presse. Montréal. L'ex-hockeyeur Steve Bégin a lancé le 18 octobre une campagne de sensibilisation pour les personnes atteintes de troubles du langage. La campagne « J'aime mon 10 », DYS, qui durera jusqu'au 1er novembre, vise à, citation, « redonner du pouvoir aux personnes 10, c'est-à-dire les personnes atteintes de dyscalculie, de dyslexie, de dysorthographie, de dyspraxie, de dysgraphie ou de troubles développementaux du langage ». Fin de citation, peut-on lire sur le site web de l'initiative. Elle se déroule en collaboration avec le logiciel Lexibar. Citation, « Souvent, ces jeunes-là sont perçus comme isolés, incompris. Ils ont des parcours scolaires très difficiles. » Ellipse. « Ce qu'on veut faire, c'est les soutenir et sensibiliser la communauté, les gens qui les entourent. » Fin de citation, explique M. Bégin. Afin de rejoindre toutes ces personnes, J'aime mon 10 mise sur des apparitions à la télévision, des articles dans les journaux et à la radio, des visites dans les écoles, un webinaire ainsi qu'une campagne en ligne. Cette année marque la deuxième édition de la campagne J'aime mon 10. Lors de la première, le groupe a réussi à générer plus de 100 000 vues sur ses contenus en ligne et a distribué quelque 200 ensembles pédagogiques à des professionnels. La date du 18 octobre a été choisie car il s'agit de la Journée internationale du trouble développemental du langage. Selon Helem, la compagnie qui a produit Lexibar, le programme offre entre autres aux élèves des prédicateurs phonétiques et orthographiques accompagnés d'illustrations pour faciliter l'écriture. Ces fonctionnalités permettent de donner une graphie correcte à des phrases écrites au son. Les 10 au quotidien. Pour Steve Bégin, les 10 représentent quelque chose de bien familier. La fille de l'ancien joueur de la LNH vit avec un trouble du langage et, en allant faire examiner sa fille, le hockeyeur s'est rendu compte qu'il avait lui-même certains troubles. Citation. « Chaque fois, je levais la main et je disais « Hé, c'est moi ça !» Puis je me suis mis à comprendre des choses. » Fin de citation. Raconte-t-il. Citation. Dans les années 1980 et 1990, c'était méconnu et on n'avait pas d'outils, chose qui m'aurait été probablement très utile. Fin de citation. Le sportif de 46 ans explique que dans sa jeunesse, ses troubles ont rendu son passage à l'école très compliqué. Il indique que les 10 sont souvent accompagnés d'un trouble du déficit de l'attention, TDA, ce qui lui a valu une réputation d'hyperactif et de « crayon le moins aiguisé de la boîte » en classe. Citation. Je me disais que je n'étudiais pas assez, mais je n'étais pas capable d'étudier, de garder l'information. Moi, lire, c'était compliqué. Je capotais. Fin de citation. Ces difficultés l'ont mené à décrocher. M. Bégin a finalement obtenu son diplôme d'études secondaires il y a quelques années, à l'âge de 40 ans. M. Bégin raconte qu'avant que sa fille ne soit diagnostiquée, elle ne voulait jamais aller à l'école, puis, citation, il n'y avait plus de problème pour l'amener à l'école, elle était souriante, elle a trouvé son bonheur et elle a surtout gagné beaucoup en confiance. Fin de citation. N'ayant pas eu ses ressources, M. Bégin explique qu'il se réfugiait dans le hockey à cette époque. Citation, c'est comme si c'est tout ce qui me restait au monde pour réussir. Fin de citation. Il pense qu'il aurait tout de même fini dans la Ligue nationale de hockey s'il avait eu plus de succès à l'école, puisque c'est un rêve qu'il habitait depuis ses 6 ans, mais il estime qu'un meilleur encadrement, citation, aurait changé beaucoup de choses, fin de citation, dans sa vie. L'anglais, par exemple, a été un grand défi pour lui. Omniprésente dans la LNH, la langue de Shakespeare n'a pas été facile à apprendre en tant que 10. Le joueur pouvait bien comprendre ce que les autres disaient et retenir des mots et des tournures de phrases, mais au moment de parler la langue, il avait de la difficulté. Citation. C'est comme si tu vas faire un marathon avec une belle paire de souliers neufs, mais elle n'est pas attachée, donc tu te plantes toujours quand tu essaies de faire un pas. Aussitôt que je voulais parler, c'est comme si je me plantais et ce que je voulais dire, ce n'est pas ce qui sortait. Ellipse, tout se bouscule dans ton cerveau. Fin de citation. Composer avec des 10 n'ont pas amené que des difficultés dans la vie du joueur. Il explique que les personnes touchées sont souvent forcées à devenir très travaillantes et persévérantes. Citation. C'est ce que j'ai comme qualificatif. J'ai été reconnue pour ça toute ma carrière. Fin de citation. C'était « Steve Bégin veut sensibiliser le Québec aux troubles du langage », un texte d'Alexis Drapeau-Bordage, paru le 20 octobre 2024 dans La Presse.
Québec célèbre ses représentants aux Jeux d'été de Paris. Un texte de Simon Carmichael, paru le 22 octobre 2024 dans Le Soleil. Les efforts olympiques et paralympiques de dizaines d'athlètes du Québec qui ont participé aux Jeux de Paris ont été soulignés par l'Assemblée nationale, mardi 22 octobre. Des dizaines d'athlètes, d'entraîneurs et d'officiels québécois qui ont pris part aux Jeux olympiques et paralympiques d'été de Paris ont été célébrés par l'Assemblée nationale, mardi. La présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, a reçu de nombreux membres de la délégation olympique du Québec lors d'une cérémonie en leur honneur, visant à célébrer leurs efforts et leurs succès olympiques et paralympiques. Le premier ministre François Legault et la ministre des Sports Isabelle Charest ont profité de l'occasion pour remercier tous les participants québécois aux Jeux de Paris, célébrant les émotions palpables à chacune de leurs performances. Au total, près de 100 athlètes olympiques et paralympiques québécois ou représentant le Québec ont foulé le sol de Paris lors des derniers Jeux. 11 athlètes québécois sont revenus de la France avec au moins une médaille olympique ou paralympique au cou. C'était « Québec célèbre ses représentants aux Jeux d'été de Paris », un texte de Simon Carmichael paru le 22 octobre 2024 dans Le Soleil.
On essaie de faire de Rimouski une ville plus inclusive. Un texte de Chanel Guérin, paru le 22 octobre 2024 dans Ici, Bas-Saint-Laurent. Les élus de Rimouski ont adopté une politique d'inclusion pour guider leurs actions futures. La ville s'engage ainsi à être plus inclusive et accessible, comme promis dans la planification stratégique Rimouski 2030. On y va une action à la fois. Et on essaie de faire de Rimouski une ville plus inclusive, mentionne la coordonnatrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Alexandra Gagnon, qui était chargée de projets de la politique d'inclusion. Elle indique que le comité de pilotage s'est inspiré de ce qui se fait ailleurs dans la province. Le document, d'une vingtaine de pages, devrait contribuer à adapter et améliorer la qualité des services municipaux en favorisant la participation de tous, peu importe leur origine, leur statut, leur âge, leur orientation sexuelle ou leur capacité. La ville considère la diversité présente sur le territoire comme une richesse pour tous. Elle devra être incluse dans chacune de nos décisions, que ce soit au niveau des politiques qui sont adoptées ou encore à chaque décision d'orientation pour de grands services, explique le maire Guy Caron. Un comité a élaboré la politique en partenariat avec une quarantaine d'organismes et de citoyens, précise M. Caron. De nouveaux enjeux. Les nouvelles réalités qui s'imposent dans la vie des Rimouskois ont guidé la politique d'inclusion de l'administration municipale. Les technologies informatiques, faisant partie intégrante de la société, participent au renforcement de la fracture numérique, indique la ville. Plusieurs ménages rimousquois peuvent se retrouver déconnectés ou exclus de la vie collective, peut-on lire dans le document de la politique. Rimouski tentera donc de développer des outils pour limiter l'exclusion d'une partie de la population. La politique d'inclusion prend également en considération l'augmentation du coût de la vie et la pénurie de logements. La ville s'engage ainsi à rester à l'écoute du milieu et explorer les pistes de solutions pour limiter la rareté des habitations sur le territoire qui entraîne la hausse marquée du coût de loyer. Par ailleurs, la politique tient compte du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus, qui entraîne une hausse du nombre de personnes en situation de handicap et des besoins propres à cette clientèle, rappelle la ville dans le document. Enfin, le visage de Rimouski a grandement évolué, est-il écrit. La ville veut davantage inclure les personnes qui ont différentes expressions de genre et identité sexuelle, ainsi que les nouveaux arrivants. Des actions en place et à venir. Le maire de Rimouski, Guy Caron, a tenu à souligner lors de la présentation de la politique les actions réalisées au cours des dernières années. L'équipe municipale a mis en place, par exemple, des feux de circulation aux signaux sonores pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle. Le service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire prête également de l'équipement sportif ou de loisirs et offre des périodes gratuites à la piscine du complexe sportif des Jardins. Enfin, depuis 2017, la ville affiche son soutien à la communauté LGBTQ+, avec notamment des intersections peintes aux couleurs du drapeau de la diversité sexuelle. Ce n'est pas un changement structurel, mais ça démontre une ouverture, croit M. Caron. À partir de maintenant, avec cette politique, on garde un œil attentif pour que les politiques soient inclusives, une citation de Guy Caron, maire de Rimouski. La politique d'inclusion formule une dizaine de recommandations autour de 6 champs d'intervention, comme la mobilité ou les aménagements urbains. Par exemple, la ville souhaite dorénavant sensibiliser les propriétaires d'immeubles locatifs à adapter leur logement, améliorer l'accessibilité des transports en commun ou encore engager des personnes issues de la diversité au sein de l'appareil municipal. Le comité se donne jusqu'en décembre 2025 pour déployer la politique dans l'ensemble des services municipaux offerts. C'était « On essaie de faire de Rimouski une ville plus inclusive », un texte de Chanel Guérin, paru le 22 octobre 2024 dans « Ici, Bas-Saint-Laurent ».
Manger, bouger et socialiser. Il faut à tout prix éviter de s'enfermer chez soi pour repousser le déclin cognitif de la maladie d'Alzheimer. Un texte d'Hugo Duchesne paru le 20 octobre 2024 dans le Journal de Montréal. Les Québécois qui ont reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer pourront faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir dès le 30 octobre. À la façon d'un testament, ils pourront remplir un formulaire en prévision du moment où ils ne pourront plus consentir aux soins. Réclamé depuis longtemps, cet élargissement est accueilli avec soulagement par des malades, même si des médecins ont des réserves sur sa mise en pratique. Les personnes atteintes d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif doivent continuer de socialiser et éviter à tout prix de s'isoler pour combattre leurs symptômes, plaide un chercheur et gériatre. Manger, bouger et socialiser, c'est le trépied qui maintient la fonction cognitive, plaide le docteur Thomas Tanou, chercheur et gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Selon un sondage léger mené pour la Société Alzheimer de Montréal, 74% des Canadiens croient qu'il n'y a rien à faire pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Et 80% du grand public pense que les troubles neurocognitifs sont une composante normale du vieillissement. Des données préoccupantes, selon la société Alzheimer qui lance un appel à la prévention. Plus tôt on agit, plus tôt on pose un diagnostic, plus tôt on est capable de mettre en place des mesures d'atténuation du déclin cognitif, explique le docteur Tanou. Être proactif. Ainsi, il appelle les Québécois à rester proactifs, à surveiller les symptômes, à ne pas se dire que c'est normal avec l'âge, et à aller consulter. Mais aussi, il croit que la société doit s'ouvrir aux malades souffrant de troubles neurocognitifs qui seront de plus en plus nombreux d'ici quelques années. Selon lui, il faut combattre la stigmatisation des personnes atteintes de ces maladies. La honte ou la crainte des proches va souvent porter les malades à s'isoler et à rester à la maison. Mais c'est une erreur, dit le spécialiste. Plus on va s'isoler, moins on va stimuler ses fonctions cognitives. Il faut sortir et maintenir une vie sociale à tout prix, recommande-t-il. Il a des patients atteints d'Alzheimer qui vont au restaurant et au besoin, ils font répéter. Et c'est correct, poursuit le docteur Tanou. Les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, comme la maladie d'Alzheimer, ont une espérance de vie de 8 à 10 ans. Médicaments à venir. L'importance d'un dépistage précoce et de maintenir ses capacités cognitives sera encore plus importante dans les prochaines années grâce à l'arrivée de médicaments pouvant freiner ces maladies, poursuit le docteur Tanou. Actuellement, Santé Canada évalue notamment un médicament ayant déjà été approuvé aux États-Unis. Il s'agit du donanemab. Il ne guérit pas la maladie d'Alzheimer, mais les premières études montrent qu'il pourrait freiner son développement dans le cerveau. On a espoir de pouvoir les prescrire, souligne le neurologue Ziad Nasreddin, qui a conçu le test MoCA, largement utilisé pour dépister la maladie d'Alzheimer. Sans être miraculeux, de nouveaux médicaments pourraient repousser de quelques années la perte d'autonomie des malades, estime-t-il. C'était « Manger, bouger et socialiser. Il faut à tout prix éviter de s'enfermer chez soi pour repousser le déclin cognitif de la maladie d'Alzheimer. » Un texte d'Hugo Duchesne, paru le 20 octobre 2024 dans le Journal de Montréal. »